La bonne nouvelle pour les personnes qui auraient un gros problème de dépendance ou qui connaîtraient quelqu'un qui aurait un gros problème de dépendance, c'est que à Lausanne, il y a à l'hôpital de Sury des personnes qui travaillent avec la pleine conscience pour des problèmes de dépendance. Donc Daniela Dunkert-Scheuner et Valérie Rossier, avec qui j'ai déjà travaillé. Donc ces personnes existent et vous pouvez leur adresser des personnes que vous connaîtriez qui auraient des problèmes de dépendance et qui souhaiteraient travailler ces problèmes avec une approche basée sur la pleine conscience. Maintenant, un petit jeu. Cherchez l'intrus. Colère. Anxiété. Tristesse. Frustration. Désir. Et c'est un truc curieux quand même. Je ne veux pas me lancer dans une grande analyse historico-culturello-sociologique parce que je me perdrai là-dedans. Et puis, c'est une soirée de méditation. Mais tous nos états d'âme sont utiles si on se remémore la vie de nos ancêtres dans leurs cavernes avec leurs mammouths et leurs tigres. C'est bien d'avoir peur, parce que sinon on se fait manger très vite et la civilisation n'aurait pas tenu très longtemps. C'est bien d'être en colère, parce qu'on ne peut pas se défendre sans ressentir la colère. Et c'est bien de désirer des trucs, parce que ben déjà, ils n'auraient pas fait beaucoup de bébés, donc la civilisation n'aurait pas beaucoup progressé en nombre. Et puis ça donne envie de faire des choses et de progresser. Donc on peut imaginer que tous ces états d'âme ont leur rôle à jouer. Mais ils n'ont pas tous eu la même carrière. Et on les voit pas tous de la même manière, parce qu'ils ont évidemment tous aussi leurs désavantages. Mais il n'y a pas très longtemps, si je me remémore la liste des péchés capitaux, il y a dedans l'avarice ou l'avidité qui est clairement liée au désir de quelque chose. Il y a la luxure, il y a la gourmandise. Donc il y avait en tout cas trois, hein. Je ne sais pas s'il y en a, je ne les connais pas par cœur, mais... Ouais, justement, l'avarice, luxure, gourmandise. Ouais, la paresse. Il y en a en tout cas trois ou quatre qui sont directement liés à l'idée de désirer quelque chose et de trop le désirer. Et dans la philosophie bouddhiste, il y a aussi cette idée que les deux états qui nous... Enfin, il y en a trois, mais les deux dont on parle le plus qui nous font du mal, c'est l'envie de quelque chose et le rejet de quelque chose, qui sont les deux états d'esprit qui dérèglent la stabilité de notre humeur. Donc le désir a eu été assez mal vu, en tout cas les traditions religieuses avaient tendance à avertir des dangers de cet état-là. Et il me semble qu'en ce moment, on a un peu tourné la page de cette perspective-là sur le désir, et si on voit les titres des bouquins, il y a pas mal de « Vaincre l'anxiété », triompher de la peur, dominer la colère, et il n'y a pas beaucoup de gérer le désir dans les librairies, et ça ne se vendrait peut-être pas. Au contraire, je reçois régulièrement des emails qui me proposent d'augmenter le mien, donc manifestement, c'est plutôt la logique inverse. Et parce qu'on ne le voit plus tellement comme indésirable, je pense que ça nous arrive aussi moins souvent qu'avant de le dissocier de notre identité. On pense souvent que notre désir est l'expression de notre identité. Excepté dans les cas où clairement il y a des conséquences désagréables pour nous, on n'a pas l'habitude de le voir comme un état d'esprit qui monte en nous et qui redescend et qui nous est extérieur, comme on le fait assez facilement avec la colère ou avec l'anxiété. On a tendance à penser que nous sommes notre désir, qu'il est l'expression de ce que nous voulons vraiment. Or, peut-être qu'il y a un intérêt à avoir quand même une forme de recul sur cet état d'esprit aussi, parce que je pense que c'est un des états d'esprit les plus problématiques actuellement. Les problèmes à la mode, ceux qui ont plutôt tendance à augmenter qu'à diminuer, en ce moment sont largement les problèmes liés aux dépendances. Il y a toujours les dépendances à l'alcool et aux drogues, mais il y a aussi toutes les nouvelles dépendances liées au développement d'Internet, la dépendance au sexe sur Internet, au jeu sur Internet, à Internet, tout court, la dépendance aux achats, avec cette invention géniale d'Amazon, l'achat en un clic. Un clic. Avant, il fallait sortir de chez soi, s'habiller, aller dans le magasin, retirer de l'argent, un clic. Donc, c'est les pathologies à la mode d'une manière générale, celles liées à l'impulsivité et à une fragilité qui nous fait suivre trop facilement des envies de quelque chose qu'on a. Et même si on n'en est, si on n'a pas de problème précis, c'est un état d'esprit qui joue un grand rôle dans la vie de tous les jours et on a peu l'habitude de l'observer avec une distance critique. En tout cas, dans mon cas, mais j'ai l'impression que les expériences que j'ai pu glaner à gauche et à droite vont un peu dans le même sens. C'est beaucoup plus facile d'avoir cette perspective sur l'anxiété, la colère, que sur le désir ou l'envie de quelque chose. Et c'est un peu toujours la même chose quand on aborde un état d'esprit avec la pleine conscience. C'est pas tellement l'état d'esprit qui est problématique, c'est comment on le vit et si on le vit en pilotage automatique ou si on est capable de le vivre en pleine conscience et de se sentir libre de le suivre. On peut être libre de suivre son anxiété ou pas, ou être libre de suivre son désir ou son envie ou pas. C'est quand on n'est plus libre que finalement ça peut devenir problématique. Alors, je vous propose de fermer les yeux et je vais vous mettre en situation de faire le lien avec votre propre expérience. Je vais vous lire une liste, pas forcément exhaustive, des désirs et des envies qui jouent un rôle dans notre vie. Et quand vous entendez un de ces désirs, une de ces envies, vous pouvez simplement vous demander si vous le connaissez bien et si vous avez une relation agréable ou parfois désagréable avec lui. Parfois problématique. Un peu, est-ce que ce désir-là vous emmène toujours vers plus de bien-être ou pas toujours? Le premier, le grand classique, le désir de nourriture. Le désir de sexe. Le désir d'alcool. Le désir de drogue. Le désir de médicaments, le désir de somnifères ou de calmants. L'envie de regarder un truc à la télé. Le désir d'Internet, surfer sur des sites d'actualité, sur Facebook, vérifier ses mails. Le désir d'acheter quelque chose. Le désir d'argent. Le désir de lire. Le désir de sport. Et un désir plus subtil. Le désir de vivre quelque chose d'intense ou quelque chose d'excitant. Le désir d'être plus beau, plus mince, plus populaire. Le désir d'être apprécié, d'être aimé, d'être reconnu. Le désir de mieux faire. L'envie de travailler. À des moments où on n'est pas forcément censé le faire. Et il y en a plein d'autres, mais si vous ouvrez les yeux maintenant dans cette liste-là, qui en verrait un qui, occasionnellement, est problématique pour lui? Donc ça vaut quand même la peine d'en parler. Et c'est un petit peu les questions que je me suis posées, c'est qu'est-ce qu'on pouvait en faire en pleine conscience? Est-ce qu'il y a des moyens de l'observer? Est-ce qu'il y a des choses qui facilitent l'observation méditative de cet état d'esprit là? Et peut-être pour le définir un peu plus précisément, parce que en anglais ils ont craving, qui est pas mal, qui se traduit vraiment par l'envie de, la pulsion vers. Et en français, envie, il a plusieurs significations, désir aussi, il n'y a rien de top, mais c'est cette idée-là de ressentir une attirance vers quelque chose et d'avoir l'impression que notre satisfaction dépend de l'obtention de ce quelque chose-là. Et le versant positif, pour pas replonger justement, parce que c'est pas pour rien qu'on a un peu tourné le dos à la liste des péchés capitaux, c'est que c'était pas terrible de condamner cet état d'esprit tout court. Finalement, il a plein de versants positifs, mais on est relativement familier avec eux, mais il y en a en tout cas deux. C'est un grand moteur à l'action, et ça nous pousse à faire plein de choses. Et évidemment, c'est une source de satisfaction, parce que quand on obtient ce qu'on voulait, on est content. Pas forcément longtemps, c'est un autre problème, mais en tout cas, ça contribue aussi à notre bonheur. Et le versant obscur du désir. Dès le départ, en fait, c'est un truc un peu doux amer, parce que quand on a envie de quelque chose, il y a en même temps l'anticipation de la satisfaction qu'on ressentira quand on l'a, donc il y a une espèce d'excitation, et de plaisir anticipé, qui c'est ce qui fait le charme aussi de cet état-là. Et en même temps, il y a une insatisfaction de ce qu'on a ou de ce qu'on est en ce moment, puisqu'il nous faut quelque chose d'autre. Et les deux choses vont un peu ensemble. Comme un manque et une anticipation joyeuse. Donc finalement, le désir est presque opposé à l'idée de contentement, parce qu'à partir du moment où on veut quelque chose, on n'est pas complètement content de ce qu'on a, ou on n'est pas complètement content de ce qu'on est. Si vous avez l'iPhone 4, vous êtes content, il est magnifique, il brille, et tout à coup, catastrophe, votre monde s'effondre, l'iPhone 5 est sorti, et votre iPhone 4 n'est plus qu'un vieux morceau de plastique avec un peu de silicone, de circuit imprimé à l'intérieur. Le contentement se transforme en désir d'autre chose. Et parfois c'est ambigu, on ne sait pas si on désire quelque chose parce qu'on est plus content de la situation actuelle, parce qu'on est plus content de ce qu'on a, ou si on est plus content de ce qu'on a parce qu'on a commencé à désirer autre chose. C'est pas extrêmement clair. La partie manque... La partie désagréable du désir, on la sent très très bien quand il est frustré. On va en reparler tout à l'heure, mais c'est finalement quand la moitié anticipation du plaisir qu'on aura quand on obtiendra ce qu'on veut s'effondre, il ne reste plus que cette impression de manque et d'insuffisance, et on n'a plus que le côté désagréable. Typiquement, vous avez envie d'une paire de jeans que vous avez repéré la semaine précédente dans une boutique lausannoise. Vous revenez dans la boutique et vous vous réjouissez vraiment, vous avez un très fort désir pour cette paire de jeans, et il n'y a plus votre taille. Il y a un jeans nettement moins bien à votre taille, ou il y a celui-là mais une taille trop petite. Là, on prend tout à coup conscience à quel point, en fait, on aimerait se débarrasser du désir dans ce moment-là. On aimerait pouvoir supprimer cet état d'envie du jeans, machin chose à la taille truc, parce que ça devient un état absolument désagréable. Au point que pour le faire disparaître, on pourrait être tenté d'acheter l'autre jeans un peu moins bien, mais à notre taille. Ou même le jeans qu'on voulait, mais à la taille trop petite. Parce qu'au moins, ça fera disparaître cette espèce de sensation d'insuffisance, de manque, de frustration. Ou évidemment, on peut aussi trouver autre chose pour compenser. C'est en tout cas un état d'esprit qui peut être très intense, donc très agréable ou très désagréable, mais qui peut résonner très fortement en nous. Et qui, peut-être parce qu'il est très intense, peut devenir problématique. Et il y a des signes clairs quand le désir de quelque chose devient problématique en clinique. Il y a la perte de contrôle. Quand on n'a plus vraiment le sentiment qu'on choisit d'être attiré par quelque chose, mais que c'est quelque chose qu'on subit. Il y a des phénomènes qu'on connaît bien pour les substances, mais qui sont vrais pour plein d'autres choses, j'ai l'impression. Ça pourrait être vrai pour Internet ou pour d'autres des désirs de la liste de tout à l'heure. Phénomène de tolérance, c'est-à-dire le besoin de toujours plus pour obtenir le même degré de satisfaction, qui n'existe pas que pour les substances finalement, pour d'autres désirs, même pour le désir d'Internet, pour le désir de sport, pour un certain nombre d'autres désirs, il y a ce phénomène où la dose habituelle ne nous satisfait plus après un certain temps. Il y a le phénomène de dépendance avec souffrance en cas de manque et obsession avec l'objet du désir qui revient tout le temps en tête et qui finit par nous parasiter. Ça peut finir par une incapacité à se sentir bien autrement qu'à travers cette satisfaction-là, en fait, qu'elle finit par prendre le pas sur toutes les autres. Et une conséquence typique des dépendances, c'est l'isolement social, parce qu'en fait, les pensées sont tellement occupées par ce dont on a envie qu'on se désinvestit des autres choses, donc de nos rapports aux autres en particulier. Une autre chose qui est problématique, c'est que comme c'est un état d'esprit très fort, on l'utilise souvent comme anesthésiant pour oublier d'autres états d'esprit désagréables. On utilise l'envie de chocolat pour oublier l'anxiété ou pour oublier la colère. C'est évidemment quelque chose qui vient aussi nourrir les problèmes de dépendance, mais d'une manière générale, on a tendance à utiliser cette envie de quelque chose d'agréable comme un moyen d'anesthésie ou de couvrir une émotion désagréable. Les classiques, il y a l'anxiété, l'ennui, la colère, la solitude. C'est aussi un état qui peut mettre dans un état de transe. Quand on est complètement pris dans cet état-là, on agit avec moins de lucidité qu'habituellement, d'où le classique d'avoir des remords après coup, qui évidemment ont tendance à nourrir le cycle, parce qu'on a envie d'anesthésier les remords, donc il faut vite un truc agréable pour oublier les remords ou la honte qu'on a ressenti. Donc en gros, le problème apparaît quand il y a une perte de contrôle, quand on n'a plus l'impression de choisir souvent de vivre ce désir ou cette envie-là. Et le désir heureux, ce serait de se sentir bien, de désirer quelque chose, d'avoir du plaisir à l'obtenir et de se sentir bien après l'avoir obtenu. Alors que le désir problématique, c'est se sentir nul. Désirer quelque chose, l'obtenir sans y prendre de réelle satisfaction et se sentir encore plus nul après. Et c'est des schémas avec lesquels, je pense, on est tous familiers pour une chose ou une autre de temps en temps, ces différences entre le moment où on vit bien cet état et le moment où il contribue à nous rendre plus malheureux. Quand cet état-là commence par à organiser notre vie, à vraiment avoir une importance, une grande importance au quotidien, il y a d'autres états agréables qui passent au second plan. Et j'en reparlerai tout à l'heure, mais une des choses intéressantes à faire si on a l'impression que ce désir prend parfois trop de place, en tout cas qu'il nous gêne, c'est aussi de s'intéresser aux autres moyens d'être heureux. Obtenir ce qu'on veut est un des moyens d'être heureux. Il y en a probablement d'autres qu'on a tendance à négliger quand on se focalise uniquement sur celui-là. Le désir en pleine conscience. Alors, je me suis posé la question, j'ai lu aussi les bouquins sur ces approches basées sur la pleine conscience pour les addictions, et j'avais lu aussi ceux consacrés à l'approche basée sur la pleine conscience pour les troubles alimentaires, il y a aussi évidemment une composante. Et je me suis aussi posé des questions pour moi, parce que j'étais un adolescent obèse qui mangeait trop, et quand on l'a été, on le reste toujours un petit peu. Et j'ai l'impression que mon rapport à la nourriture est toujours resté un petit peu problématique. Ça reste une des choses que j'utiliserai en situation de stress pour faire descendre mon niveau de stress. Donc j'ai un bon objet de méditation, de travail pratique dans mon rapport avec la nourriture. Même s'il n'est pas problématique, il l'est encore suffisamment. Je le vis encore suffisamment de cette manière-là pour que ce soit intéressant de l'observer. Et il y a deux principes qui m'ont beaucoup aidé, sachant que je suis loin d'avoir épuisé le sujet, mais qui peut-être vous aideront aussi dans votre observation de cet état-là. Le premier, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans le livre sur l'approche pour la prévention de la rechute dans les dépendances. C'est intéressant de pas seulement l'observer dans le domaine problématique. Si c'est le rapport à la nourriture qui est problématique ou le rapport à l'alcool qui est problématique, on aurait tendance à ne s'intéresser à cette envie d'eux que dans ce contexte-là. Et en fait, c'est intéressant de l'observer dans tous les contextes parce que ça joue un rôle dans plein d'autres aspects de notre vie quotidienne. Et finalement, plus on apprend à observer cet état-là, plus ça devient facile de prendre un petit peu de distance avec, mais en le faisant systématiquement et pas seulement en relation avec l'objet du désir à problème. Donc, s'intéresser aux envies d'Internet aussi bien qu'aux envies de nourriture ou qu'aux envies d'être une personne plus ceci ou moins cela. Et à chaque fois que dans une journée, vous sentez cette espèce de pulsion vers quelque chose, ce serait mieux si j'avais, si j'étais, si j'obtenais ça, d'en prendre conscience. Y compris quand il est parfaitement bienvenu, en fait, de la même manière qu'on peut prendre conscience de notre anxiété et la vivre en pleine conscience quand on la trouve complètement légitime ou quand on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas le bienvenu et qui nous submerge. Et quand on commence à le faire, en tout cas pour moi, je suis peut-être un cas spécial, mon constat, et je l'ai fait avec plus de zèle ces dernières semaines, parce que je me disais qu'il y aurait cette soirée, mon Dieu, ce que c'est fréquent. J'ai l'impression de constamment être en train d'avoir envie de quelque chose. Ça commence le matin, on se lève, et puis on se dit un café, ou peut-être un petit chocolat avec le café, ou peut-être checker mes mails, ou peut-être... Avant même d'être réveillé complètement, on peut déjà démarrer dans une logique de chercher des petites choses à obtenir qui nous donneront des petits moments de satisfaction. J'ai le sentiment que ça m'accompagne tout au long de la journée. Cet état-là, mais aussi bien que d'autres, mais je ne m'en rendais pas forcément compte avant d'en faire un objet de méditation. Et puis, l'autre chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas l'idée d'en avoir moins, mais évidemment d'en avoir conscience, et aussi de se demander quels autres états d'esprit peuvent contribuer à la satisfaction ou au bonheur, en fait, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, et de cultiver aussi des états d'esprit qui n'ont pas cette nature. Assez facilement obsessionnel, mais qui peut aussi contribuer à ce qu'on se sente bien, finalement. Qui sont évidents, comme des états de contentement, de gratitude qu'on peut ressentir, ou notre fameuse bienveillance. Ces états d'esprit-là, qui nous mettent pas à risque d'une quelconque addiction, mais qui nous rendent aussi heureux, finalement. Puisque il n'y a pas que d'obtenir ce qu'on veut qui peut nous rendre heureux. Ensuite, si on va dans le concret de l'observation de ces moments où on a envie de quelque chose, surtout évidemment les moments où on a l'impression que c'est problématique, que c'est particulièrement intense, à quoi est-ce que ça ressemble? Comment est-ce qu'on le vit physiquement? Et je vous propose de nouveau de fermer les yeux et de vous poser la question. De vous imaginer, et on le refera tout à l'heure de toute façon, de vous imaginer dans un des moments où vous avez fortement envie de quelque chose, peut-être un des moments où vous n'êtes pas sûr que c'est ce qu'il vous faut, mais vous en avez quand même envie. Physiquement, ça ressemble à quoi? Comment est-ce que vous décririez cet état-là? Physiquement et peut-être émotionnellement. À quoi il ressemble? Je sais que c'était court pour se mettre en situation là, on fera un exercice un peu plus long tout à l'heure, mais comment vous le décririez, cet état-là?